Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Alors vous le savez, nous avons l'obstacle des 500 parrainages. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ma candidature est plus sûre que celle de Fillon. Vous avez bien sûr suivi ces démêlés et les révélations accablantes contre Fillon et... Vous avez suivi aussi sa défense ridicule. Il répète en boucle qu'il n'a rien fait d'illégal, comme si c'était le problème. Fillon ne se rend même pas compte du décalage qu'il y a entre ses leçons de morale et ses propres actes. Il est révélateur d'une classe politique socialement étrangère à la classe ouvrière et hostile aux travailleurs. Mais ce sont exactement les mêmes comportements, la même arrogance que l'on retrouve dans le monde bourgeois, avec ses PDG et ses grands actionnaires qui n'ont de cesse de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils sont trop payés, alors qu'eux-mêmes empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois sans rien faire de leur victoire. Alors oui, Fillon est bien à l'image de ces gens-là. Mais pour se faire élire, il fallait qu'il le cache. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, et bien il est disqualifié aux yeux même de son électorat, et bien c'est tant mieux, en tout cas, ce n'est pas nous qui nous en plaindrons. Je vais laisser peut-être s'asseoir, il n'y a pas de souci. Non, ça va, j'y vois bien, pas de problème. Donc voilà pour Fillon. Mais regardez en face, regardez les Hamon ou les Macron, comment ils cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA, qui a aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, à licencier. Et les voilà aujourd'hui qui nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche, la remise des bus sur les routes. C'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres. Oui, ils sont libres de s'auto-exploiter pour le compte des grands groupes capitalistes. Quant à Hamon, eh bien, il se singularise par sa proposition d'un revenu de base universel. Vous savez qu'il parle de 750 euros d'ici à 2022, ou même peut-être pour le quinquennat d'après. Parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail, et donc sous-entendu de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Alors oui, il faut rejeter ce type de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune de Bernard Arnault, le patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards cette année. Alors ce n'est pas l'aumône que nous voulons, c'est une politique qui répond à nos intérêts, avoir un travail et un salaire. Le droit d'être soigné, d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation et le droit d'avoir une retraite décente. Et puis ceux qui parmi les travailleurs se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens se trompent aussi. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant par exemple qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, au prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, eh bien, elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et sur les plus pauvres. Condition, bien sûr, qu'ils soient français. Mais c'est une démagogue qui se sert justement des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Elle s'indigne, par exemple, que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile. Pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn chez Renault-Nissan gagne 45 000 euros par jour. Pas qu'une bourgeoise comme Bettencourt empoche 1 million par jour sans rien faire. Marine Le Pen se dit révulsée qu'on héberge des migrants plutôt que des SDF français. Mais elle ne s'indigne pas qu'il puisse y avoir des SDF. Non. Elle nous explique qu'il y a deux sortes et que l'une d'entre elles peut très bien crever. Alors non, quand on appartient au monde du travail, quand on est ouvrier, quand on est employé, quand on est chômeur, voter pour Le Pen, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp, c'est voter contre ses intérêts, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Tous sont respectueux de l'ordre capitaliste et du monde bourgeois. Et une fois au pouvoir, eh bien, ils gouverneront pour le compte de la bourgeoisie. À l'opposé de tous ces candidats, je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. À l'opposé des Le Pen, Hamon, Macron, Fillon, qui se préparent tous à servir la bourgeoisie, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, les Dassault, les Peugeot, les Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour ce grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la base des baisses de nos salaires ou de nos retraites. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est le pouvoir du grand capital ou le pouvoir des travailleurs. Et il n'y a pas d'entre deux. Il faut choisir son camp et le nôtre, c'est le camp des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont eux aussi à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas par exemple des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber, mais c'est aussi le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et puis, je le précise, parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats, il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. C'est une spécialité de Le Pen d'opposer les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité et de leur confession. Elle sème ainsi la haine et le rejet de l'autre, et elle favorise en retour le repli communautaire. Et bien dans cette élection, je dirais qu'au-delà de notre origine, de nos croyances et de notre couleur de peau, un aspect essentiel de notre identité et de notre vie, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants, qu'on soit en activité ou qu'on soit au chômage. Alors il faut serrer les rangs, il faut rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et il faut affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et dans ces élections, il faut affirmer nos intérêts, nos besoins et notre en direz, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Tous ceux qui sont susceptibles d'arriver au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Et pour nous, donc, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans leur jeu. Et puisqu'on nous donne la parole au premier tour de cette élection, eh bien, il ne faut pas laisser le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous. Disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste. Et parallèlement à cette comédie électorale, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille, les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Et il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices, sous peine d'expropriation. Regardez PSA. Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,5 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore à l'heure actuelle. Tous ces gens-là se débrouillent pour ne jamais parler de licenciement. Ça, c'est devenu interdit. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent au final. Et ça fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors la première des choses, c'est de commencer par stopper tous ces grands groupes qui sont en réalité les plus grands fabricants de chômeurs. Et puis je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi touchés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer à ces groupes capitalistes qui pèsent et qui dominent toute l'économie, il faut imposer qu'ils soient mis à contribution et qu'ils payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, bien sûr, il faut aussi créer des millions d'emplois. Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot, par-ci, par-là. Et puis pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce que font quasiment tous les grands groupes aujourd'hui avec leur plan de compétitivité qui consiste à imposer heures supplémentaires et samedi travailler obligatoire. Regardez dans les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux? Regardez la catastrophe de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs, de peintres en bâtiment? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc autant d'emplois à créer en face. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production et les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Parce que ces robots et ces gains de productivité devraient au contraire permettre de soulager les salariés, de baisser les cadences et de baisser le temps de travail de tous. Mais cela suppose bien sûr que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Si nous laissons faire le patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que nous comptabiliserons, mais ce sera 7 millions, 8 millions, 9 millions de chômeurs. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage, c'est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme et à la compétition entre travailleurs. C'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors, oui, pour nous, c'est la priorité, il faut un travail et un salaire pour tous. Et puis à côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Parce qu'elle ne veut surtout pas créer des difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont les travailleurs à se loger, à se soigner, et même tout simplement à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas, elles. Le Pen et tous les autres candidats, en réalité, s'en moquent des difficultés des travailleurs. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. Et bien sûr, une augmentation qui soit payée par le patronat. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois.
32 heures.
Donc là je parle des salaires, alors 32 heures, d'accord, mais peut-être même moins je te dirais, mais ça on le garde pour le débat. Donc elle met en avant cette revendication, 1 800 euros par mois. Eh bien il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou les crédits logement, et parfois davantage. Il faut payer 50, 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé, il faut encore payer l'accès à Internet, le téléphone portable, il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, c'est encore bien plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Et je tiens à préciser que j'inclus là les minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, parce qu'ils doivent être eux aussi transformés en salaire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde doit pouvoir être intégré à une activité utile. Et puis, sur ces 1 800 euros, je peux aussi dire que ce n'est qu'un rattrapage. Est-ce que vous vous souvenez à quel montant était le SMIC il y a 10 ans? Il y a 10 ans, il était de 1 000 euros net. Aujourd'hui, il est autour de 1 150 euros. Cela veut dire qu'en 10 ans, il a augmenté de 15%. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale des salaires de 300 euros. Et pour que ces hausses soient durables, il faut qu'elles suivent les augmentations du coût de la vie, de celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes, des péages d'autoroute qui viennent d'augmenter. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit justement de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance pour voir que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Alors voilà notre programme en ce qui concerne les salaires et les pensions de retraite. De bonnes âmes, souvent bien payées, elles, m'ont déjà expliqué que ce programme était complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1 800 euros par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer ses études à ses enfants, le permis. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, les PDG des grandes entreprises, les Arnaud, les Bettencourt avec leurs dizaines de milliards, les Pénélope Fillon avec leurs quelques milliers d'euros, tous ces gens-là, eux, ils ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans le monde réel, ils vivent dans notre monde. Alors, dire que 1 800 euros, c'est de l'utopie, est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Parce que pour y parvenir, en réalité, il faudra renouer avec des luttes collectives puissantes et imposer un nouveau rapport de force avec le patronat. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et au besoin sur la fortune des bourgeois, accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, la loi est faite pour les couvrir. Prenez Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que c'est donc 2000 emplois qui sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin y est payé par exemple 1400 euros net et tous les autres employés sont rémunérés autour du SMIC. Non, ce qui a tué Vivart, ce sont les fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui l'ont forcé à emprunter de l'argent, auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds, à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Alors, si les salariés du groupe Vivart avaient connu toutes ces manœuvres financières, eh bien, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et ils auraient pu mieux se défendre. Il est de bon ton pour les politiciens de parler de transparence, mais ils empêchent les travailleurs de l'imposer. Y compris quand les journalistes lèvent des lièvres, eh bien vous les entendez tous s'indigner. C'est ce qui se passe avec Fillon, par exemple. Il est offensé, ce monsieur, qu'on lui demande des comptes aujourd'hui. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence. Au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation, on est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Idem pour les chômeurs qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, qui doivent fournir des preuves justifiées de leur demande s'ils repoussent un rendez-vous. Alors oui, il faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus décisif encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les travailleurs savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, parce qu'elle le prépare, elle le tape, elle l'envoie. Enfin bon, là je parle d'une vraie assistante. Donc, collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, eh bien les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent très bien et ils le craignent. C'est pour ça qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Et c'est pour ça que nous devons revendiquer la levée de ce secret. Il faut supprimer ce secret des affaires. Et cette mesure est un objectif essentiel. Parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des fausses informations, des rumeurs. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Et ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales. Et oui, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et puis on verrait aussi qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps sur toute l'économie. Alors voilà notre programme. Vous le voyez, ce n'est pas comme tous les autres candidats un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. Notre programme part et découle des besoins quotidiens des travailleurs. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout. Contrairement aux autres candidats, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait au contraire fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe, un vote de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat politique, dans le combat des idées. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, et bien il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec tous ces partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans bien des esprits, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts à un moment donné, ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Et ça, c'est le rôle d'un parti. Oui, il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle, derrière un drapeau, et puis d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. De la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable, de ses droits. C'est une petite musique qui est plaisante aux oreilles. Mais concrètement, elle ne débouche que sur très peu d'engagements concrets. Mélenchon promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1326 euros par mois, les vraies 35 heures. Mais même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont des promesses en l'air, tant que l'on ne dit pas comment on l'imposera au grand capital, tant que l'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste. C'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, souvenez-vous, en 2012, il l'avait déjà fait, et il l'a fait superbement. Mais il faut dire si on est prêt ou pas à renverser ce grand capital et cette finance. Mélenchon dit qu'il est prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie et pas la propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions, nous dit-il, souverains. Et le pouvoir reviendrait au peuple. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est le roi, c'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est un travailleur, quand on est exploité, on n'est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. Parce qu'on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir sur nous, qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, qui a le pouvoir de nous verser un salaire entier ou pas, qui peut fixer, qui fixe, qui décide de nos horaires de travail, des dates de nos congés. On est dépendant pour tout. Pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. C'est faire croire aussi qu'il y a des intérêts communs avec les travailleurs et la bourgeoisie de France. Alors non, laissons ces mots d'ordre aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Alors bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience de classe, le recul de la conscience de classe et de la conscience ouvrière, et renoncer à affirmer sa propre conscience quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, eh bien notre campagne, elle nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail ne doit plus être synonyme de victime. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits, les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs. Nous sommes indispensables. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie et de la société. Mais ils ne sont rien pour nous. Imaginez les Bernard Arnault sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans train, sans avion. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et pouvait s'en servir pour transformer la société par en bas et pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société, une économie d'abord organisée pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné tous les immeubles bourgeois pour que chacun ait un toit sur la tête. Et puis il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus en déformant et en caricaturant, en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe a accompli dans le passé. Et voilà ce que représente pour nous le camp des travailleurs. Ce n'est pas seulement d'ailleurs la question du passé, c'est aussi, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la déchéance morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement et à la haine de l'autre. Il fait aussi le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements et du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose à des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. D'ailleurs, là-dessus, vous aurez remarqué, tous les principaux candidats sont d'accord. Il faut toujours élever des frontières de plus en plus hautes et les rendre de plus en plus étanches. Et tous nous répètent en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais je l'ai dit, dans les quartiers bourgeois, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. Et l'argent qui est gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. On ne pourrait rien faire contre la misère. En réalité, la misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et par leurs bombes. Et ils la fabriquent ici, par le chômage et par la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'au fond, quand ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, eh bien, ils font la même chose que lorsqu'ils nous cherchent à nous convaincre qu'on ne peut pas assurer un travail à tous, qu'on ne peut pas espérer avoir une retraite à 60 ans. En tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toute religion et de toute couleur de peau. Mais ils n'ont qu'une seule politique qui représente leurs intérêts. C'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme. Il représente la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et regardez aujourd'hui comment on entend parler des travailleurs, quasiment comme une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers peut-être? Non, en réalité, ils sont composés de femmes et d'hommes comme nous, qui travaillent bien souvent dans les métiers les plus pénibles. Et cette économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi, elle produit des travailleurs. Dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a 2 ans, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être des salariés embauchés avec un contrat de travail. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir pendant la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée. Dans les ateliers, dans les entreprises, dans les bureaux, il y avait encore beaucoup de réserves. Mais encore une fois, il faut aussi qu'elle s'exprime et qu'elle se montre sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un, le prochain président de la République. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura pour mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir? Et bien dans cette élection, c'est exactement la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui imposera, qui supprimera des emplois dans la fonction publique, qui imposera plus de liberté, qui donnera, il n'a pas besoin d'imposer là, qui donnera plus de liberté pour les patrons, pour qu'ils nous exploitent, pour qu'ils baissent nos conditions de vie et de travail. Eh bien il ne faut pas marcher dans tout ça. L'enjeu dans ces élections, cela ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques, de faire avancer le combat des travailleurs. Alors j'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature, sans crainte d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012? Et il faudrait recommencer avec un autre? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, pour se protéger, est un leurre aussi. Parce qu'il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec cette conscience d'avoir à se battre par lui-même au travers des luttes puissantes. Quant à s'abstenir, ce n'est sûrement pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, personne ne le fera à notre place. Personne ne mènera le combat à notre place. Alors bien sûr, parfois il est difficile de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester. Parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petit combat, il n'y a pas de petit geste. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix peut compter et elle peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, oui c'est vrai, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, Oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis donc la candidate de lutte ouvrière. Bon, les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom. Mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois qu'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Ce n'est pas rien, c'est déjà même quelque chose de très important, parce qu'une campagne relayée comme celle-ci au niveau national permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a des centaines de milliers qui partagent à un degré ou à un autre ces idées-là. Et ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions, et c'est déjà quelque chose d'important. Mais il y a aussi tous les autres, tous ceux que je ne toucherai pas au travers des médias. Il y a tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de la politique ou de voter. Ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre et de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont justement toutes ces discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent. Parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle sont confrontés des millions d'exploités. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, vous l'aurez compris, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Alors, pour que ce soit une bonne campagne, eh bien, il faut que ça soit une campagne militante. Il faut que ce soit aussi votre campagne. Petit effort, hein, je vous propose que chacun se projette en mai prochain, en mai 2017, au lendemain de l'élection. Qu'est-ce qui changera pour nous tous? Eh bien, nous irons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui vous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener.
Je vous propose maintenant de chanter le chant des travailleurs. Ah, vous ne m'attendiez pas. Si on va tenir l'international.
De vous les damnés de la terre, de vous les forçats de la faim, la raison d'entendre son
Merci.